Alle sind uns herzlich willkommen aus allen Völkern.
Tous sont la bienvenue de tous les peuples, toutes les langues et toutes les nations. Que pourrions-nous souhaiter de plus, si ce n'est que Dieu puisse obtenir ce qui lui revient de droit dans chaque pays, et non seulement dans chaque pays, mais avec chacun de nous. Que nous puissions réellement parvenir à l'état d'être en parfaite harmonie avec notre Dieu. Qu'une véritable harmonie divine s'établisse et que le Seigneur puisse suivre son chemin avec nous tous. Nous avons déjà entendu une parole merveilleuse en introduction. Nous pourrions nous arrêter sur chaque verset et nous y approfondir. Et je voudrais peut-être, avant de donner les passages bibliques concernant cette pensée dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, j'aimerais revenir brièvement sur Éphésiens 1. Éphésiens chapitre 1, je poursuis la lecture, car Frère Rousse a déjà lu de merveilleux versets. Peut-être la deuxième partie du verset 9 et ensuite à partir du verset 10. Éphésiens 1, verset 9, deuxième partie. « Nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le dessein bienveillant qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. » Il existe un développement ordonné par Dieu dans l'histoire du salut et toute chose se déroule de manière ordonnée dans le royaume de Dieu. Même si pour nous certaines choses paraissent totalement confuses, pour Dieu tout est ordonné et suit son cours selon ce que Dieu a déterminé. Nous continuons la lecture au verset 11. Éphésiens 1, verset 11. « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. » Peut-on le dire plus clairement que ça? C'est compréhensible pour quiconque sait lire et écrire, et tous ceux qui ont des oreilles pour entendre, et surtout ceux qui écoutent ce que l'Esprit dit aux églises. C'est justement dans le fait de la prédestination divine que réside une ancre si ferme pour notre âme, et rien ne peut nous ébranler, car nous savons que Dieu l'a destiné ainsi, et cela demeure pour l'éternité. Alors, on peut passer par des montagnes et des vallées, ou inversement, sous la pluie ou le soleil, dans toutes les situations, nous marchons avec le Seigneur dans la certitude qu'il fera toutes choses bien et mènera tout à une issue glorieuse. Puis il est dit dans la suite, Éphésiens 1, verset 12, Éphésiens 1, verset 12, « Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ, ou qui avons mis notre espérance en Christ. » En qui devrions-nous mettre notre espérance? En aucun autre, aucun autre. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, notre Seigneur, selon Jean 1, 17. Et nous avons besoin des deux. Nous avons besoin de la grâce et nous avons besoin de la vérité. Et lorsque ces deux choses sont trouvées dans nos vies, alors nous sommes des personnes qui ont trouvé grâce et qui sont trouvées dans la vérité divine. Au verset 13, il est écrit, Éphésiens 1, verset 13, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit promis, lequel est le gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Non. Nous ne pouvons pas entrer dans tous les détails ici, mais beaucoup ont l'onction. Mais cependant, le sceau appartient uniquement à ceux qui sont réellement transformés à l'image de Jésus et qui prendront part à la première résurrection et à l'enlèvement. Comme je l'ai déjà dit, nous ne pouvons pas nous approfondir là-dessus. Mercredi soir, une parole a été lue que je voudrais répéter encore une fois dans 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par grâce. Pas seulement une onction, afin que nous puissions nous réjouir, exulter, chanter, mais une révélation divine qui y est liée. Et ainsi, il nous est dit ici, nous avons reçu l'Esprit de Dieu afin de reconnaître ce que Dieu nous a donné par grâce. Je poursuis la lecture du verset 13. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Alléluia! Gloire soit rendue à Dieu. Employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. La parole parlée doit être en accord avec la parole écrite. Le contenu doit correspondre à la prédication selon la lettre et selon l'esprit. Les deux doivent être dans une harmonie divine. Si l'on veut exposer la parole qui est esprit et vie avec l'intelligence humaine, cela ne fonctionne pas. Mais lorsque l'esprit vient en notre secours et unit le contenu spirituel à un langage inspiré, alors la parole de Dieu devient vivante au milieu de nous. Alors, elle est aussi fraîche que comme si le Seigneur parlait aujourd'hui pour la première fois avec nous. Alors, nous sommes saisis par la puissance de cette parole de Dieu et nous faisons l'expérience de Dieu une nouvelle fois. Comme il doit y avoir un baptême, je dois être bref. J'ai mentionné ce matin que Dieu, en tout temps, a veillé à ce que les hommes puissent savoir si une chose est vraie ou non. Mais il y a eu des temps où la Bible n'était pas encore écrite. Dieu devait alors donner des réponses directes. Je voudrais lire ici, dans Exode chapitre 28, Exode chapitre 28, verset 30. Tu mettras dans le pectoral du jugement les Urim et les Thummim qui seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant le Seigneur. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël devant le Seigneur. La traduction de Luther et la plupart des traductions donnent ici les expressions « la lumière » et « le jugement ». C'était deux l'eau sacrée placée sur le pectoral et Dieu donnait la réponse par la lumière si la chose était juste. Dans Lévitique 8, verset 8, il lui mit le pectoral et il plaça dans le pectoral les Ourim et les Thummim. C'est très clair, Nous n'allons pas développer davantage. Je vais simplement continuer dans Nombre 27, verset 21. C'est très important que les choses qui sont dites ici puissent être directement soutenues par les Saintes Écritures et transmises au peuple. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Nombre 27, verset 21. Il se présentera devant le sacrificateur Éléazar, qui consultera pour lui le jugement de l'Ourim devant le Seigneur. C'est sur son ordre qu'ils sortiront et sur son ordre qu'ils entreront. Alors Dieu a répondu, on pouvait demander, et si Dieu approuvait la chose, la lumière brillait ou apparaissait, s'il ne confirmait pas la chose, il n'y avait pas de lumière. Et les gens savaient exactement si Dieu était d'accord ou non, et ainsi ils pouvaient consulter le Seigneur et connaître par là la volonté de Dieu. Dans 1 Samuel, chapitre 28, 1 Samuel, chapitre 28, nous voulons aussi lire 1 Samuel 28, verset 6. Saoul consulta le Seigneur, et le Seigneur ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Ourim, ni par les prophètes. C'étaient les trois formes courantes dans l'Ancien Testament, du moins depuis les jours de Moïse, lorsque cet ordre avait été établi. Ici, nous lisons trois choses. Il consulta le Seigneur, et le Seigneur ne lui répondit point, ni par un songe, ni par l'Ourim, ni par un prophète. C'était donc une manière habituelle de rechercher la volonté de Dieu et d'obtenir une réponse de la part du Seigneur. Dans Esdras au chapitre 2, il nous est ensuite rapporté que ce n'est que lorsqu'un sacrificateur viendrait avec cette lumière et ce jugement que l'on pourrait consulter Dieu, ce n'est que là que certaines choses pourraient être faites. Dans Esdras chapitre 2, verset 62. Esdras 2, 62. Ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ils ne les trouvèrent point. Ils furent exclus du sacerdoce. Et le gouverneur leur dit de ne pas manger les choses très saintes jusqu'à ce qu'il se présentât un sacrificateur avec l'Ourim et le Thummim. Vous connaissez l'histoire avec Esdras, Néhémie et le retour du peuple, la reconstruction du temple, avec tout ce qui s'est passé à cette époque, et l'on mettait de l'importance à ce que les gens qui se réclamaient du peuple de Dieu, que cette personne puisse connaître leur tribu, présenter leur registre généalogique, Et avant que ce ne soit fait, il ne pouvait pas être admis. Bien-aimés, nous aussi, nous devons pouvoir présenter devant Dieu notre certificat de nouvelle naissance si nous voulons être ajoutés dans la maison de Dieu, dans le temple de Dieu, dans l'église de Dieu, et être baptisés par un seul esprit en un seul corps, ou bien si nous avons été baptisés. Si nous voulons poursuivre cette pensée, alors il est vraiment nécessaire que chacun, et maintenant en particulier en ce qui concerne le baptême, que chacun fasse une expérience personnelle avec Dieu. Et cette expérience consiste en réalité en deux parties. L'une est que l'Esprit de Dieu agit sur l'homme, qu'il produit le regret et que la repentance puisse venir et que l'homme se tourne vers Dieu. Mais lorsque la personne concernée qui se tourne vers Dieu se convertit, c'est-à-dire change de direction, se convertit au Seigneur, lorsque cette conversion a lieu, alors doit s'accomplir ce que Paul a écrit aux Romains. Son esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, verset 16. Le moment doit venir et je peux m'en souvenir personnellement comme si c'était hier ou aujourd'hui. C'est un temps de prière, oui, de lutte, de pleurs, de supplications. Et soudain, toute la situation se transforme. Et alors vient la louange et les actions de grâce de ce que nous avons été acceptés, que Dieu nous ait regardés avec grâce et nous a acceptés et a fait de nous des enfants de Dieu, selon la parole de l'Écriture qui dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Jean 1, 12. Oui, si tu as cru en son nom, au nom de Jésus, pour ton salut, pour ta rédemption, pour le pardon de tes péchés, et si cette foi est devenue vivante et que Dieu t'a accepté, alors il te donne la réponse. Et soudain, tout change en réalité. Et tu commences à louer et à glorifier et à remercier le Seigneur de t'avoir accepté. Oui, c'est une expérience. Son esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. C'est ainsi que c'est écrit dans les Saintes Écritures. Ainsi, particulièrement s'adressant à tous ceux qui veulent se faire baptiser aujourd'hui, vous savez, nous ne commençons pas à agir extérieurement sur l'homme. Nous laissons cela à Dieu, qu'il puisse commencer à agir dans l'homme intérieur. Nous avons à maintes fois expérimenté que des personnes viennent pour la première fois sous la prédication de la parole. Elles viennent telles qu'elles sont. J'ai déjà expérimenté dans différents pays que des femmes sont venues complètement maquillées. On ne sait comment. Oui, avec beaucoup d'ornements, jusqu'aux oreilles et ailleurs, mais elles sont venues. Et voici, sous la prédication, les larmes ont coulé. Et on voyait la différence entre la peau naturelle et la peau maquillage plus tard pendant la prière. Mais j'ai expérimenté dans beaucoup de pays que l'Esprit de Dieu a agi puissamment et que des larmes ont coulé. Mais chacun venait tel qu'il était. Beaucoup venaient même avec des cheveux courts, d'autres avec des cheveux un peu plus longs, et ainsi de suite. Ils venaient tous tels qu'ils étaient. Et c'est ainsi, exactement ainsi que chacun doit venir. Personne ne doit se transformer lui-même. Et il ne faut pas commencer extérieurement pour le Seigneur, mais laisser le Seigneur le faire intérieurement. Et ensuite, il s'ensuivra que l'Esprit donnera l'instruction. Pour vous, chères sœurs, dans le Seigneur, celles qui ont encore les courts cheveux, Vous savez, ça repoussera non seulement dans la Genèse, mais aussi plus tard. Les cheveux repoussent. La Bible dit véritablement dans 1 Corinthiens chapitre 11 qu'il est honteux pour une femme de se couper les cheveux. Et Paul dit même que si elle se coupe les cheveux, alors qu'elle se rase une fois, afin que tous sachent qui elle est et comment elle se tient. La même Bible dit dans le même chapitre que la chevelure est une gloire pour la femme, car elle lui a été donnée comme voile. 1 Corinthiens 11, verset 15. Les pieds pour marcher, les mains pour travailler, les yeux pour voir, les longs cheveux donnés comme voile par grâce. Mais combien nous nous réjouissons lorsque de nouvelles personnes puissent s'ajouter, venir telles qu'elles sont. Nos sœurs peuvent embrasser toutes les autres sœurs, peu importe comment elles viennent, avec des pantalons courts ou longs, avec des cheveux courts ou longs, cela ne joue aucun rôle. Dieu commence à agir. N'a-t-il pas commencé à le faire avec nous un jour? Comment sommes-nous venus au Seigneur? Chacun est venu tel qu'il est et tel qu'il était. Et c'est pourquoi nous prions que tous se sentent bien dans la présence de Dieu, que personne ne juge personne, que personne ne regarde l'autre avec mépris, mais que nous nous souvenions tous d'où Dieu nous a appelés et tirés. Sentons-nous tous bien dans la présence de Dieu? Je ne l'oublierai jamais. Ici, dans cette salle, dans la salle annexe, j'ai une fois coupé les cheveux à deux frères. Et de nature, je ne suis pas un coiffeur, mais ils sont venus avec les longs cheveux. Vraiment, vraiment, vraiment très longs cheveux. Et ils voulaient être baptisés. Et j'ai dit, frère, très volontiers, mais premièrement, une coupe de cheveux. Et c'était amusant à l'époque. On voit rarement chez le coiffeur. Je vais rarement chez le coiffeur. Je n'y étais pas allé depuis longtemps. Un frère Rousse est mon coiffeur à domicile. Mais comme je l'ai dit, on voit très rarement qu'on coupe autant de cheveux. Mais cela valait vraiment de la peine à ce moment-là, je dois le dire. Mais je l'ai fait avec tant d'amour. Il n'y a pas eu de blessure après la coiffure. Tout était fait par amour. Et croyez-moi, ce que Dieu fait contient toujours du baume. Aucune blessure, aucune atteinte, aucune correction sévère. Toujours assaisonné de l'amour divin. Et ainsi, c'est ainsi que cela doit rester ici et devenir encore plus profond, afin qu'un jour, on puisse dire, comme le Seigneur l'a aussi proclamé dans l'évangile de Jean, « À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jean 13, verset 35. Pas par un enseignement, pas par une forme dans l'assemblée, mais vraiment par ceci. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est pour la vérité et se réjouit avec la vérité. Puisque nous avons déjà lu dans l'Ancien Testament au sujet de la lumière et de du jugement, prenons encore un peu cette pensée, et cela très brièvement pour faire la transition dans le Nouveau Testament. Au sens figuré, Jean avait déjà commencé au chapitre 1 de l'Évangile de Jean et il a dit, ou bien il est dit de Jean qu'il vint pour servir des témoins, pour rendre témoignage à la lumière. Jean 1, 7. Il s'agit donc de la lumière. Il devait être la lumière pour éclairer les nations, comme nous le lisons. Et si je ne me trompe pas, dans Ésaïe chapitre 49, verset 6, Ésaïe 49, verset 6, il dit, « C'est peu que tu sois mon serviteur pour élever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ésaïe 49, verset 6. Et si nous lisons le verset 8, il est écrit, « Ainsi parle le Seigneur, au temps de la grâce, je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secourrai. » Dieu est plein de grâce, il est miséricordieux, il est fidèle. Il ne veut pas que quelqu'un périsse, mais il veut que tous aient la vie éternelle afin de vivre éternellement avec lui. Et je crois que ce thème aussi devrait être clair pour nous. Oui, devrait l'être. Uniquement celui qui a la vie éternelle peut vivre éternellement. Et il y a un seul qui a la vie éternelle, qui l'a et qui peut l'avoir, c'est Dieu. Et Dieu s'est révélé en Christ. Et ainsi, la vie éternelle est venue à nous. Et c'est pourquoi l'Écriture dit, « Celui qui a le Fils de Dieu a la vie éternelle. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » 1 Jean 5, verset 12. Nous pourrions vivre des éons. Et un néon pourrait être 1000 ans ou 10 000 ans. Cela ne joue aucun rôle. Mais la vie éternelle n'a pas une vie éonique, une vie temporelle. La vie éternelle ne peut être possédée que par celui qui peut être en accord avec 1 Jean chapitre 5, verset 20, et qui l'a aussi expérimenté. Je lis ce verset. Beaucoup de passages ne peuvent pas être lus à cause de la limitation de temps. 1 Jean chapitre 5, verset 20. 1 Jean 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Très, très clair pour tous ceux qui veulent le croire, qui veulent l'accepter. Personne n'a plus besoin d'interprétation. Dans Actes des Apôtres, verset 22, un verset, et ensuite, dans Actes 26, un autre verset, nous connaissons tous ces passages bibliques. Actes des Apôtres, chapitre 22, verset 6. Comme j'étais en chemin, cela s'est produit. Et je m'approchais de Damas vers midi. Tout à coup, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Dieu est lumière. Et nous l'avons déjà lu ici. Jésus a dit, celui qui me suit ne demeurera pas dans les ténèbres où je suis la lumière, et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie, selon Jean 8, verset 12. Au chapitre 26 des Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, chapitre 26, au verset 13, il est écrit, « Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. » Dieu habite une lumière et lorsqu'il se révèle, alors il peut et il est apparu dans une lumière encore plus éclatante que la lumière du soleil vers midi. Je crois cela comme c'est écrit ici de tout mon cœur et de toute mon âme. Vous savez que j'ai vu une fois la gloire du Seigneur. Oui, aussi cette lumière surnaturelle. C'était au passage du dernier décembre au 1er janvier de 80 à 81, de décembre 1981 au 1er janvier. De décembre 1980 au 1er janvier 1981, j'ai vu la gloire du Seigneur et j'en suis très reconnaissant à Dieu. Je voulais raconter ici, j'ai décrit comment était cette splendeur dans laquelle je n'ai pu regarder qu'un instant. Oui, je peux Mieux je peux le décrire ainsi. Lorsque le soleil brille sur de la neige fraîchement tombée et si scintille, et que scintillent ces milliards d'étincelles, on a l'impression que tout vit et se meut. Ainsi, cette gloire de Dieu, cette lumière, était pénétrée d'un tel scintillement. Je l'ai vu. C'est pourquoi je peux les décrire. Je sais que c'est très difficile à croire pour certains, mais je n'aurai aucune raison, aucun motif de vous raconter n'importe quoi ici. Je peux décrire la chose très exactement du début à la fin, toute l'expérience. Dieu est apparu dans la lumière et il donne la lumière. Celui qui le suit ne restera réellement pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Dans Romains chapitre 8, verset 16, je voulais encore lire ce verset avant d'aborder brièvement le sujet du baptême, afin de faire savoir à tous que l'Esprit de Dieu donne cette assurance par grâce. Romains chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Non pas que nous le serons un jour, mais que nous le sommes, que nous sommes devenus fils par grâce, par la foi en Jésus-Christ. Chacun qui est né dans ce monde le saura tôt ou tard et le comprendra. Celui qui est né de Dieu le saura tôt ou tard et le comprendra. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu par grâce. À ceux qui veulent se faire baptiser, brièvement la parole de Romains chapitre 6. Nous lisons ici à partir du verset 1, afin que la prédication sur ce sujet devienne, afin de ne pas devoir prêcher sur ce sujet. Romains chapitre 6, verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Verset 2, loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Sur un mort, plus personne n'a de droit. Même d'autres doivent probablement payer les frais d'enterrement. On ne peut plus s'adresser à un mort. Il ne porte plus de responsabilité. Il n'est tout simplement plus là. Celui qui est mort avec Christ, il n'y a plus aucun droit qui puisse être réclamé ou exigé quelque part.
Mais c'est lui qui est mort avec Christ et une fois pour toutes retiré du domaine de Satan et de la mort et de l'enfer. Et comme nous l'avons lu précédemment en introduction, prédestiné au salut, prédestiné pour le salut avant la fondation du monde. Et si nous acceptons ce salut et reconnaissons réellement que de même que tous étaient déjà en Adam à l'origine, vous savez, Dieu n'a pas recréé chaque homme individuellement, créé, mais Dieu a créé Adam. Et ensuite, il a tiré Ève de lui, il l'a amené vers Adam et s'est écrié ou a dit, et Adam a dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Genèse 2, verset 23. C'est pourquoi elle sera appelée femme, Isha, car elle a été prise de l'homme. Bien. Maintenant, appliqué à nous, nous avons tous été tirés, où nous avons tous été en Adam, c'est-à-dire en Christ. Et celui qui naît maintenant de Dieu est engendré par la parole et l'esprit pour une espérance vivante. Je dois peut-être encore lire la parole de 1 Corinthiens 15 afin que tous comprennent de quoi il est question. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. 1 Corinthiens 15, 45. C'est pourquoi il est écrit, « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant, un esprit qui crée la vie. » Verset 46. « Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. » Verset 47. « Le premier homme tiré de la terre est terrestre. » C'est ainsi que c'est écrit ici, n'est-ce pas? La langue a un peu changé, est devenue un peu plus complexe. Mais lisons-le tel que c'est écrit ici. Verset 47. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est d'origine céleste. Il est d'origine céleste. Il y a le premier Adam, il y a le second Adam. Il y a une naissance terrestre dans ce monde et il y a une nouvelle naissance par l'Esprit de Dieu dans le royaume de Dieu. Et il faut expérimenter les deux. Car ce qui est né de la chair est chair et la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Jean 3, verset 6. C'est pourquoi notre Seigneur a dit, « en vérité, je vous le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Vous devez naître de nouveau. » Réalisons encore une fois, ce texte me plaît beaucoup. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est d'origine céleste. Verset 48, 1 Corinthiens 15, « Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. » Ce sont des vérités bibliques. Et maintenant vient encore au verset 49, 1 Corinthiens 15. « Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Loué soit le nom du Seigneur. » Est-ce que cela peut être écrit plus clairement? Non. C'est si clair et si net. Alors, à vous, bien-aimés, qui voulez vous faire baptiser, et à nous tous qui avons déjà été baptisés, demandons au Seigneur, supplions-le, de pouvoir faire cette expérience avec Dieu, de le reconnaître. J'étais déjà en Christ. Dieu m'a élu en lui avant la fondation du monde. J'ai été avec lui et en lui lorsqu'il a souffert, lorsqu'il est mort. Je suis descendu avec lui dans les lieux inférieurs. Je suis remonté avec lui. J'ai été placé avec lui, transporté avec lui dans le royaume céleste. J'étais en lui et il est en moi. C'est ainsi que c'est écrit dans Jean chapitre 15. Vous en moi et moi en vous. Jean 15, verset 4. Et encore, il est dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean 15, verset 7. Nous étions en germe en Christ, comme toute l'humanité était déjà en Adam. Et ensuite, chacun est venu en son temps. C'est ainsi que Dieu a pu nous choisir en Christ. Il a embrassé, oui, du regard toute la période depuis que l'éternité s'est ouverte et que le temps a commencé jusqu'à ce que le temps prenne fin et retourne dans l'éternité. C'est ainsi que Dieu a tout vu d'avance. Il l'a vu, il est omniscient et il a pu inscrire dans son livre les noms de ceux qui croiraient. Comme nous l'avons lu, tout se déroule selon le développement ordonné par lui. Et nous pouvons maintenant, à la fin du temps de la grâce, nous laisser intégrer dans ce développement ordonné par Dieu et prendre part à ce que Dieu fait maintenant. Tous ceux qui veulent se faire baptiser doivent aussi savoir qu'ici, on baptise bibliquement et apostoliquement au nom du Seigneur Jésus, comme tous les apôtres ont baptisé et comme cela nous a été rapporté. Sachant que Dieu s'est révélé comme Père dans le Fils et par le Saint-Esprit, et aussi sachant que cela s'est fait en un seul nom, dans un seul nom. Tu l'appelleras Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu 1, 21. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lequel ils devraient être sauvés si ce n'est le nom de Jésus. Selon Jean 4, 12. Ainsi, le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit est Jésus. Car c'est le seul nom. Si je demandais quel est le nom du Père, quelle réponse me donnerez-vous? S'il vous plaît, dites-moi la réponse. Et quand Jésus dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Jean 17, verset 6. Quel est le nom qu'il a fait connaître? Beaucoup se sont occupés ou bien ont voulu comprendre. Mais sans révélation, cela est un peu difficile. Avec seulement un peu de connaissances, même théologiques, les révélations bibliques et divines ne sont pas facilement accessibles. Et ainsi, il a plu au Seigneur de donner aussi sur ce point de la clarté et de nous ramener à l'enseignement des apôtres, car nous savons qu'ils avaient la révélation du Seigneur. Car Christ, notre Rédempteur, a passé 40 jours avec eux après sa résurrection et il est écrit qu'il les instruisait concernant le royaume de Dieu. Et ça, on peut le lire dans les premiers versets des Actes des Apôtres, chapitre 1. Et nous croyons que cet enseignement de 40 jours a ensuite trouvé son explosion dans les Épîtres, dans les enseignements globaux du Nouveau Testament. Si nous baptisons comme nos pères dans le christianisme primitif ont baptisé, alors cela sera certainement juste devant Dieu. Nous devons simplement toujours voir les relations dans cela. Lorsque Jésus a dit « baptisez-les dans le nom », alors il s'agit réellement du nom dans lequel Dieu s'est révélé pour notre salut et non simplement d'un titre. Dieu est notre Père, c'est ce qu'il est. Et c'est pourquoi nous prions, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mais Père n'est pas un nom, nous le savons tous. Et Fils non plus n'est pas un nom, c'est une désignation de ce que quelqu'un est. Nous avons ici beaucoup de fils, beaucoup de pères, mais personne ne s'appelle fils et personne ne s'appelle père. Il s'agit donc réellement du nom et ce n'est pas de la subtilité Ce n'est pas vouloir être plus savant, plus connaisseur. Ce sont des vérités bibliques fondamentales qui nous distinguent en tant qu'assemblée de Jésus-Christ, en tant qu'Église de Jésus-Christ de tous les autres, qui nous distinguent de tous les autres. Et soyons aussi fidèles sur ce point. Étant prêt à porter l'opprobre du nom de Jésus-Christ, peu importe ce que les autres disent. Il y a beaucoup qui disent Jésus seul, et je ne l'ai jamais été parce que je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Mais je sais une chose, je crois au Dieu Tout-Puissant, invisible pour nous, qui est esprit par nature et qui est descendu dans la plénitude originelle, qui s'est révélé comme Yahvé, comme le Logos, qui est sorti de la plénitude originelle et qui est devenu chair. Et en Jésus-Christ, nous avons Emmanuel, Dieu avec nous. Heureux tous ceux qui croient cela. Ce n'est pas compliqué, mais on ne peut pas le saisir avec l'intelligence ni l'expliquer par des paroles. Simplement croire et remercier Dieu. Cela, on peut le faire au début, au milieu et à la fin. Ainsi, croyons de tout cœur, comme dit l'Écriture, et faisons confiance au Seigneur. Que celui qui veut se faire baptiser, qu'il puisse saisir ses pensées en lui, qu'il témoigne par cela, être entré dans la mort avec Christ, avoir été enseveli avec lui, et cela signifie être immergé. Pendant que celui qui se fait baptiser est immergé, il est surtout représenté qu'un homme est mort avec Christ, est enseveli avec lui par le baptême. Et le fait d'être ressorti de l'eau signifie qu'il sort avec Christ pour une nouvelle vie, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Cela aussi n'est pas dit sans raison dans ce contexte. L'homme expérimente la puissance de la résurrection, une vie nouvelle, divine, de résurrection entre en nous. Ne craignez pas, croyez seulement, et vous verrez et expérimenterez la gloire de Dieu manifestée en vous-même. Les choses ne sont pas seulement prêchées, elles sont crues et expérimentées. Loué soit le nom du Seigneur. Amen. Nous nous levons pour la prière. Inclinons nos têtes. Nous demeurons dans la prière silencieuse devant Dieu. Ouvrons nos cœurs au Seigneur. Avant de prier, je voudrais demander si quelqu'un a le désir d'être inclus dans cette prière. Pendant que tous les yeux sont baissés et que nous demeurons dans la prière, que personne ne regarde autour de lui, qui a le courage de lever la main pour la prière. Merci, merci, merci. Dieu voit toutes les nombreuses mains. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse partout. Père céleste, tu as vu les mains et tu connais les cœurs. Tu nous as parlé par ta parole, tu as agi par ton esprit, ô Seigneur. Nous te remercions pour cela. Dieu fidèle, nous te prions maintenant pour tous ceux qui ont levé les mains, ô Seigneur. Ô bien-aimé, Dieu, tu connais leurs besoins, qu'ils soient d'ordre spirituel, terrestre ou corporel. Dieu fidèle, nous venons tous ensemble devant ta face et nous te demandons, interviens avec toutes les requêtes, tous les sujets de prière, avec tout, nous venons à toi. Et nous te remercions déjà de ce que tu nous as exaucés et de ce que tu sauveras, délivreras, guériras et béniras. Seigneur bien-aimé, nous te remercions aussi pour ta parole en ce week-end. Nous te remercions pour l'action de ton Saint-Esprit.
et nous te prions. Sois encore avec nous aujourd'hui, même pendant le service du baptême au Seigneur. Puisses-tu être présent avec ta bénédiction. Nous te remettons tous ceux qui seront baptisés et nous te prions. Accepte-les, pardonne-leur toutes leurs fautes et sois-leur favorable au Seigneur, afin qu'ils cherchent et trouvent dans la prière la communion avec toi. Oui, Seigneur, et que par ton esprit, tu puisses leur rendre témoignage qu'ils sont devenus enfants de Dieu, que tu les as acceptés, que ton sang a coulé pour eux à Golgotha et que tu as été blessé, frappé, meurtri et crucifié pour eux. Seigneur bien-aimé, puisses-tu mettre cette foi vivante dans chaque cœur par grâce. Reçois encore les remerciements sincères et profonds pour ce week-end, pour les réunions, pour ta parole. Nous te remercions aussi maintenant pour tous nos précieux frères et sœurs de la Tchécoslovaquie, de la Finlande, de la Roumanie, de la France, de la Belgique, de partout, de la Suisse, de l'Autriche, de partout, ô Seigneur. Dieu fidèle, bénis-nous tous et sois avec nous tous par grâce. Oui, fais-lui ta face sur nous et donne-nous ta paix, la certitude de la foi, la joie dans le Saint-Esprit et des cœurs reconnaissants. Ô grand Dieu, adoration et honneur te soient rendus maintenant et pour l'éternité, dans le Saint-Nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen.